Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 3 mars 2022. À Sydney, des centaines de milliers de personnes ont évacué cette nuit et dans la matinée alors que plusieurs secteurs à l'ouest et au sud de la ville sont menacés par des risques d'inondation. En Ukraine, 8e jour de guerre. Hier, les Russes, pour la première fois, ont visé des cibles se trouvant à l'ouest du pays, tandis que leurs forces armées tentent d'isoler la capitale, Kiev, du reste du pays et de l'Europe. Enfin, en France, le président Emmanuel Macron a prononcé une allocution à la télévision hier soir dans laquelle il assure que la France n'est pas en guerre avec la Russie. Le déluge qui s'abat depuis le début de la semaine sur la côte est de l'Australie s'est déplacé vers le sud de la Nouvelle-Galles du Sud. Il frappe actuellement Sydney, la Hunter Valley, mais également la Central Coast. Le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, a indiqué qu'environ 500 000 personnes à travers tout l'État sont soumises à des ordres d'évacuation. Il a par ailleurs précisé à propos de la région de Hawkesbury que la crue de la rivière pourrait être pire encore que l'an dernier. On l'écoute.
We do expect particularly in the Hawkesbury region that the floods will be worse than they were last year and that we see more torrential rain and flooding in Newcastle and Hunter over the course of the day.
Dean Naramore, du bureau de météorologie indique pour sa part que les fortes précipitations attendues aujourd'hui sur le littoral représentent un véritable danger à prendre très au sérieux. La quantité de pluie attendue sur la journée étant bien supérieure aux précédentes prévisions faites par le bureau de météorologie.
We're expecting 50 to 150 millimetres today in that part of the world. And we could also see isolated totals in excess of 200 millimetres, particularly with any thunderstorms.
Plus au nord, la ville de Ballina, il y a deux jours, s'est retrouvée entièrement recouverte d'eau. Des milliers de logements ont été inondés, au moins 6 000 d'après les services d'urgence. La maire de la commune, Sharon Cadwallader, a par ailleurs précisé que le réseau téléphonique n'est toujours pas 100% opérationnel et qu'il n'y a pour l'instant plus aucun accès à Internet.
I'm managing to getting a few text messages through to people that are asking me, could I go and check on their parents, elderly parents? I haven't been able to contact them. I'm doing my best to get around as many as I can. Because all the lines, they can't get through to emergency services. We're in the thick of it here. And it's just terrible to think that in this day and age that we haven't got a better communication system when we're so reliant on it.
Le sud-est du Queensland, après lui aussi avoir déjà subi des inondations massives dans la nuit de dimanche à lundi dernier, se prépare de nouveau aujourd'hui à affronter une météo effroyable. Des vents très violents, de la grêle et des pluies torrentielles sont de nouveau attendus dans l'après-midi, et ce alors que sur place, de nombreux habitants avaient commencé à estimer et réparer les dégâts causés par les inondations ces derniers jours. À ce stade, à travers toute l'Australie, plus de 150 000 demandes de soutien financier ont déjà été soumises au gouvernement fédéral. Une aide bien sûr indispensable pour la reconstruction, mais l'Association australienne des psychologues estime par ailleurs qu'un soutien à la santé mentale devrait également être mis en place et à la disposition des victimes de ces inondations, en rappelant d'ailleurs que cela existe déjà pour les victimes des feux de brousse et des incendies. Rappelons à ce sujet que si vous êtes concerné par ces inondations, vous pouvez prendre contact avec Lifeline au 13 11 14. Enfin, pour clore ce chapitre australien, l'Australie occidentale aujourd'hui rouvre enfin ses frontières après s'être isolé du monde et du reste de l'Australie pendant des mois et des mois. Il faut toutefois remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir se rendre dans cet état, avoir reçu 3 doses de vaccin anti-Covid et effectuer un test antigénique à l'arrivée. Parmi les premiers à s'être rendus sur place, le leader des travaillistes, Anthony Albanese, il s'était engagé à se rendre en Australie occidentale dès que cela serait possible, d'autant que plusieurs circonscriptions électorales de cet État, actuellement aux mains de la coalition, pourraient basculer dans le camp travailliste lors de la prochaine élection fédérale. 8e jour de guerre en Ukraine où les forces russes, en marge des bombardements effectués sur plusieurs grandes villes du pays, notamment la capitale Kiev, ont commencé hier pour la première fois depuis le début de ce conflit à choisir pour cible des zones situées plus à l'ouest du pays. On écoute tout de suite les explications de Stéphane Sioran, correspondant de RFI en Ukraine.
La nuit dernière, il y a eu un bombardement dans une ville qui s'appelle Jytomyr. C'est une ville d'environ 200 000 habitants à 150 km à l'ouest de Kiev. Et ce bombardement a touché une maternité où, selon les estimations, il aurait fait au moins 2 morts. Donc toucher une maternité, c'est un crime de guerre. Et ce type de bombardement a eu lieu à plusieurs reprises sur d'autres infrastructures civiles dans le pays. Donc on a l'impression que face à la résistance des Ukrainiens, il y a une certaine forme de frustration de la part des généraux russes qui ont lancé un nouveau type d'offensive qui cible moins forcément les infrastructures militaires, mais de plus en plus les infrastructures civiles comme les administrations, comme les écoles, les universités et donc à certains endroits des hôpitaux. Donc le nombre de victimes est en train d'augmenter, le nombre de victimes civiles dans le pays serait peut-être de 2000 morts depuis le début du conflit, ça a été communiqué par le gouvernement ukrainien. Par ailleurs, on note qu'il y a un isolement de plus en plus important de la capitale. Vous parliez donc du nord-ouest de l'Ukraine. Le nord-ouest de l'Ukraine, c'est là où il y a la plus grande ville, la plus grande route du pays qui relie la Pologne à Kiev. Or, plusieurs localités sur cette route ont été attaquées et on a l'impression que l'armée russe est en train d'essayer d'isoler Kiev de la Pologne et donc de l'Europe, ce qui pourrait couper à terme les approvisionnements en biens, en nourriture, mais également en armes, parce qu'il faut savoir qu'il y a des camions qui font le trajet entre Kiev et la frontière polonaise pour ramener les armes qui ont été livrées par les différents pays européens. Donc en ce moment, la capitale Kiev n'est pas encore entourée, mais la pince est petit à petit en train de se refermer et on ne peut plus pénétrer dans la capitale que par le sud.
La pince se referme petit à petit, mais ça n'est pas sans conséquence sur le contingent russe. Le ministère de la Défense à Moscou a pour la première fois hier reconnu des pertes assez importantes subies par les forces armées russes en Ukraine. On fait le point sur le sujet avec Anissa El-Jabri, correspondante de RFI à Moscou.
498 morts, 1587 blessés dans l'opération spéciale, comme dit le ministère de la Défense, avant de dresser son propre bilan côté ukrainien, très supérieur selon Moscou. Pas un mot sur les prisonniers, en revanche, et pourtant, les images de jeunes soldats autorisés par les Ukrainiens à appeler leur famille en Russie sont encore visibles sur Internet, même si le filet sur la liberté d'expression se resserre de plus en plus. Enfants de 7 et 10 ans arrêtés pour avoir manifesté avec leurs parents en Sibérie, arrestation en pagaille lors des rares protestations. Navalny a beau appeler à manifester tous les soirs à 19h à Moscou, les prisons sont désormais pleines. Les deuxièmes pourparlers russo-ukrainiens débutent avec une proposition russe inédite, un cessez-le-feu est mis sur la table. Pourtant, en Russie, l'inquiétude monte encore. Un conseil de la fédération qui n'était pas prévu à l'agenda va avoir lieu ce vendredi. La rumeur enfle. Le pouvoir, à cause de la guerre, pourrait prononcer la loi martiale avec à la clé censure militaire, interdiction totale de tout rassemblement et manifestation et de toute organisation considérée comme minant la sécurité du pays. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. C'est là le principal message délivré hier soir par le président français Emmanuel Macron au cours de sa 3e allocution télévisée depuis le début de cette guerre en Ukraine. Le chef de l'État français a aussi témoigné de sa solidarité à l'égard du peuple ukrainien et de son président, mais il a aussi indiqué qu'il continuait de dialoguer très régulièrement avec Vladimir Poutine. Je vous propose d'écouter un extrait de cette intervention télévisée.
initiatives diplomatiques, sanctions contre les dirigeants politiques et économiques de la Russie, soutien à la population ukrainienne vont ainsi se poursuivre et s'intensifier avec pour objectif d'obtenir l'arrêt des combats. Et pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix et qui le font savoir en Russie et ailleurs. Pour cela, que si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine. Pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons.
La guerre en Ukraine, c'était donc le seul et unique sujet abordé par le président lors de cette intervention télévisée. Il n'a en revanche pas, comme certains l'attendaient peut-être, fait acte de candidature pour l'élection présidentielle et se présentait donc à un second mandat. Il n'a pourtant plus que 2 jours pour le faire. Effectivement, toutes les déclarations doivent être soumises d'ici à vendredi au plus tard. En revanche, pour Christiane Taubira, c'est terminé. L'ancienne ministre de la Justice, qui s'est lancée dans la course à la présidentielle à la mi-janvier, après être sortie gagnante de la primaire populaire, a finalement décidé de jeter l'éponge. Elle n'était pas parvenue à obtenir les 500 parrainages de maire nécessaires pour pouvoir concourir à l'élection à la fonction suprême. À Paris, Aurélien Devernoy pour RFI.
De l'émotion, mais aussi un peu de colère dans la voix de Christiane Taubira au moment d'annoncer sa décision de renoncer à sa candidature. Colère contre le système des parrainages, colère aussi contre les partis de gauche ayant selon elle fait en sorte qu'elle ne les obtienne pas.
Cet empêchement, évidemment, est la marque de forces politiques qui ont saisi cette collecte de parrainages pour rendre difficile cette candidature qui, manifestement, les bouscule.
Dans le viseur de Christiane Taubira, les socialistes accusés d'avoir torpillé sa candidature, mais aussi les écologistes ayant renoncé à l'union des gauches. Déçue, la désormais ex-candidate veut prendre le temps de réfléchir à un éventuel ralliement.
Dans les prochaines semaines, j'exprimerai publiquement mon vote du premier tour.
Un vote qui suscite déjà des convoitises. Christiane Taubira a en effet construit un réseau de militants et de soutiens dont les voix pourraient s'avérer précieuses pour la présidentielle. Mais l'ancienne ministre de la Justice voit plus loin.
Pour les législatives, se développent déjà des dynamiques de maisons communes. Nous allons immobiliser nos forces.
Toujours convaincue de la nécessité de rapprochement des gauches, Christiane Taubira entend désormais repartir de la base à l'occasion des législatives, en créant par exemple une structure politique favorisant l'union, sans besoin de se rallier derrière un parti.
Avant de faire un point sur la météo du jour, de toute façon, vous l'imaginez bien, elle est globalement très humide aujourd'hui. Signalons également la disparition d'une star du petit écran français, Jean-Pierre Pernaut, qui a présenté le journal de 13h sur TF1 pendant plus de 30 ans, est décédé hier à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer des poumons dont il avait lui-même révélé l'existence quelques mois plus tôt dans une vidéo postée sur Twitter. Revenons maintenant à la météo en Australie. Du soleil à Perth et Adélaïde, où il fait respectivement 27 et 33 degrés. Soleil également à Melbourne, 30 degrés. En revanche, il pleut et il va pleuvoir très fortement aujourd'hui à Sydney, où le thermomètre affiche 24 degrés. Conditions similaires attendues à Wollongong et à Newcastle. 21 degrés à Canberra, où on prévoit également de la pluie, peut-être un peu moins intense. 28 degrés à Brisbane, où des vents violents vont balayer la ville. Et enfin, 33 degrés à Darwin, où le ciel est nuageux ce jeudi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.